E-Radio, l'invité de la rédaction, Juan Barceló Moyano.
Thank you, Madam President, honorable members, my fellow Europeans. Never before has this Parliament debated the state of our Union with war raging on European soil.
Habillée en jaune et bleu, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a peu tardé à parler de la guerre dans son discours sur l'état de l'Union mercredi dernier. Cette séance annuelle au Parlement européen est l'occasion de faire un bilan politique et de pointer les priorités pour l'avenir de l'Union. Von der Leyen a fait un vif portrait de la souffrance des Ukrainiens et a mis en valeur la réponse européenne dès le début du conflit, mais elle a très peu avancé pour la suite. Madame Jenny Raflick, vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Donc il y a plusieurs dossiers sur lesquels la présidente ne s'est pas projetée, mais notamment le rôle de la défense, un sujet qu'elle avait abordé en 2021, mais pas cette année, alors que la guerre est bien proche. Madame Raflick, pourquoi a-t-elle éludé ce dossier ?
Alors, très vraisemblablement, c'est en grande partie parce que les déclarations qui s'étaient multipliées l'année dernière et depuis le début du conflit ukrainien sur la question de l'Europe de la défense, d'un projet d'armée européenne, etc., d'un Conseil de sécurité européen, absolument rien n'a débouché sur des faits. Et bien au contraire, on a constaté plutôt les carences en matière de défense des États européens et de leur capacité à se concerter, à se mettre d'accord. Et très vraisemblablement, si le sujet a été éludé, c'est parce qu'il était plutôt gênant par rapport aux réalisations de ces derniers mois.
Donc on dirait que la guerre en Ukraine n'a pas, disons, fait avancer sur ce volet.
Je pense que la guerre en Ukraine a plutôt clarifié un certain nombre de choses dans la politique des États membres, et en particulier l'importance de l'OTAN et la priorité donnée à l'OTAN pour la question de la défense de l'Europe. Alors, je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a la défense européenne, c'est-à-dire la défense mise en œuvre par les États européens, et la défense de l'Europe, la défense du sol européen, et en l'occurrence de l'Europe centrale aujourd'hui, et des frontières de l'Union européenne qui peuvent être menacées par la Russie. Et très clairement, à part on va dire la France, en réalité, pour la plupart des États membres, la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Et c'est vraiment ce que la guerre en Ukraine a permis de clarifier.
Donc on a pas mal parlé de l'autonomie stratégique, mais de ce que vous dites, il n'y a pas un grand intérêt entre les États membres d'y avancer. Pourquoi ?
Alors en fait, on a surtout vu un contraste se mettre en œuvre. On a eu des déclarations, je pense aux déclarations d'Olaf Scholz. On a eu des discours en faveur justement des avancées européennes. Mais si on regarde bien ensuite dans les actes, et on peut reprendre le cas allemand, qu'est-ce que l'Allemagne s'est empressée de faire ? D'acheter du matériel militaire américain, compatible avec les standards de l'OTAN. Donc il y a une vraie contradiction, finalement, entre le discours et la pratique.
De ce qu'a révélé donc ce discours 2022, avec l'absence significative d'un discours sur l'état de la défense, c'est qu'on ne va pas avancer sur ce sujet ?
C'est qu'on va avancer sur ce sujet, mais dans le cadre de l'OTAN, plus vraisemblablement, qui est plus directement opérationnel. L'OTAN, toutes les structures sont en place, tout fonctionne très bien. Alors que si on veut avancer sur la question de la défense européenne, le contexte de crise est peut-être moins porteur parce qu'il va falloir se mettre d'accord, réfléchir, discuter, négocier.
Mais justement, dans cette urgence, la présidente s'est bien vantée de la réponse immédiate, unanime de l'Europe à la suite de l'invasion, notamment avec l'envoi conjoint d'armes, une nouvelle mise en place d'un mécanisme qui n'avait jamais été déclenché. Comment estimez-vous cette réponse ?
Oui, alors l'envoi d'armes et ce mécanisme, en fait, n'est pas totalement nouveau. Il y avait déjà eu des envois d'armes, et je pense notamment à destination de certains pays africains qui luttent contre le terrorisme. Ce qui est nouveau, c'est que ce sont des armes offensives, létales, qui sont envoyées. Mais là aussi, ça a mis en avant un autre problème. C'est-à-dire que chaque arme que les pays européens envoient à l'Ukraine vont manquer aux armées européennes si éventuellement elles doivent se mobiliser. Et on a eu beaucoup de déclarations de mise en garde des officiers généraux français, des officiers généraux allemands, disant qu'ils n'étaient pas aptes aujourd'hui à faire face à un conflit, ce qu'on appelle les conflits de haute intensité. La défense de la plupart des pays membres de l'Union européenne, en fait, a connu une vraie mutation depuis la fin de la guerre froide. On n'était plus dans la préparation d'un conflit de haute intensité classique, je dirais, face à un pays comme la Russie. On était plutôt dans la lutte contre le terrorisme, dans des choses un peu qui touchaient plus à ce qu'on va appeler la sécurité.
Et bien justement, en face à ce nouveau défi, à cette nouvelle forme de conflit, il y a eu de nouveaux déploiements, notamment par exemple le Fonds européen de la défense qui a commencé à faire des investissements pour la préparation, pour la coopération dans le marché de la défense et la recherche. Qu'est-ce que vous en pensez? Où sont les investissements? Où doivent-ils se faire?
Alors, le projet de Fonds européen de la défense était antérieur à la guerre en Ukraine. Hein. Ça avait été lancé quelques jours avant, effectivement, et cette initiative touche surtout à l'industrie et aux coopérations industrielles, ce qui signifie des projets sur le long terme. Et là, pour le coup, justement, sur les coopérations, l'achat par certains pays membres de matériel américain plutôt que de pays européens risque de nuire un petit peu à ces investissements sur le long terme. Je suis assez prudente. Je pense qu'il va vraiment falloir voir dans les mois et dans les années à venir si l'émotion et les déclarations suscitées par l'émotion de la guerre en Ukraine se concrétisent et se réalisent.
Dans ces réactions, dans cette émotion que vous évoquez, il y a eu l'approbation aussi dans la suite de la nouvelle boussole stratégique présentée en mars 2022. Elle envisageait de créer une force de déploiement rapide européenne qui consisterait de 5000 hommes. À quoi bon ce corps-là?
Alors là aussi, en fait, ce déploiement, il avait déjà été annoncé à plusieurs reprises depuis la fin des années 90 et il n'avait jamais été concrétisé. Alors la boussole stratégique, là aussi, c'était antérieur hein, à la guerre en Ukraine. Et on voit aussi finalement qu'on est toujours dans la projection à long terme. Alors que sur le court terme, une force semblable existe aujourd'hui et elle est pleinement opérationnelle dans le cadre de l'OTAN.
Donc, vous vous répétez toujours que l'intégration européenne, elle passerait toujours dans les cadres de l'OTAN. Il y a peut-être des projets rêveux un peu qui ont parlé d'une armée européenne. Est-ce que c'est irréalisable?
Alors, des projets d'armée européenne, il y en a déjà eu. Il y avait eu la fameuse communauté européenne de défense, hein, lancée dans les années 50. Tous les traités européens soulignent d'ailleurs que pour la question de la défense, ça relève des missions de l'OTAN. Et c'est ce qui se passe depuis les années 50 avec l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. C'est-à-dire que très souvent, ces projets européens ont été vus comme faisant doublon. Et donc représentant double dépense. Donc pour relancer aujourd'hui des projets d'armée européenne, il faudrait d'abord clarifier cette question de la relation avec l'OTAN et d'un éventuel doublon.
C'est clair. Et donc finalement, on se projette sur l'avenir, 2023, discours sur l'état de l'Union, on ne va pas avoir avancé?
Alors, je pense qu'il va surtout falloir voir comment l'opinion publique réagit et se comporte dans les mois qui viennent. Et là, en l'occurrence, la guerre en Ukraine va commencer à positionner les choses dans la vie quotidienne. On le voit avec la crise énergétique, on le voit avec les appels à l'économie et aux efforts collectifs. Donc, il sera très, très intéressant de voir dans les mois qui viennent comment réagit l'opinion publique et si elle continue ou pas à soutenir ses efforts et notamment ses dépenses en matière de défense.
Eh bien, ça va rester en tout cas un sujet qu'on va continuer à suivre et qui restera bien sûr sur le débat à la suite de ce discours de l'État de l'Union. Madame Jeanne Raflik, professeure d'histoire à l'Université de Nantes, merci beaucoup.
Merci à vous.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.